Mesdames, messieurs et les autres, bonjour, il est 13h en ce 27 mai 2015, Guillaume Touzelbond. Je me moffe dans mon propre nom, ça va bien. Guillaume Touzelbond avec vous dans le cadre de CIBL reçoit NTT d'avenir en collaboration avec la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. Le thème de l'émission d'aujourd'hui, eh bien, le mois de mai, mois des patriotes, c'est bien normal qu'on en discute. Un petit devoir de mémoire s'impose également. On va tout d'abord parler des grandes nouvelles et il se passe beaucoup de choses du côté de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal en compagnie de Maître Maxime Laporte, qui est président général de la SSJBM. Également dresser l'histoire et l'héritage des patriotes, tous deux avec de grands H en compagnie de l'historien, professeur et auteur Marcel Tessier, déjà avec nous. Merci d'être là d'ailleurs. Plus tard à l'émission, en deuxième demi-heure, entrevue avec Danick Parenteau, qui est essayiste et professeur de philosophie et de sciences politiques au Collège militaire royal de Saint-Jean. Est-ce que les Québécois ont des racines républicaines? On va se poser la question avec lui. Et voilà le menu de l'émission. Merci beaucoup d'être avec nous. Et dans quelques instants, donc, les grandes nouvelles du côté de la SSJBM. Mois des Patriotes, donc, et particulièrement la Journée des Patriotes qui avait lieu le 18 mai, au jour de la Reine, mais j'ai l'impression qu'en compagnie de Maxime Laporte, président général de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, on va dire que c'était la Journée des Patriotes,
n'est-ce pas? Certainement. Il faut dire que les Québécois ont un rapport trouble et sont depuis longtemps en porte-à-faux, je dirais, avec la monarchie britannique, pour des raisons évidentes. On se souviendra de la déportation des Acadiens en 1755, les Acadiens qui refusaient de prêter serment, et un récent sondage qui révélait que près de 86% des Québécois seraient en faveur de l'abolition de la monarchie. Alors, il y a une contradiction qui est patente au Canada entre, d'une part, la fameuse fête de la reine Victoria et la Journée nationale des Patriotes au Québec. Bon, la fête de la reine a été proclamée en 1901, même année que le décès de Victoria, proclamé donc par le Canada. Et très rapidement, une vingtaine d'années plus tard, en 1920, eh bien, les Québécois, ici, les Canadiens français, vont plutôt commémorer Dollard des Ormeaux, qui est un héros mythique de la Nouvelle-France. Et c'est en 2002 que, sous le gouvernement Landry, on décide de faire de ce jour férié, chômé et payé, la Journée nationale des Patriotes, pour souligner l'importance de la lutte des Patriotes, de la lutte démocratique des Patriotes pour la reconnaissance de la nation, la liberté politique et l'établissement d'un gouvernement démocratique.
On va parler plus en profondeur de tout ça avec Marcel Tessier tout à l'heure, mais à court terme, là, on prend des nouvelles l'un de l'autre une fois par mois, et ça en est passé des affaires depuis la dernière fois que vous êtes venu nous voir.
Bon, on a une belle émission, mais voici pour le segment là, des nouvelles en rafale. Alors, le 23 avril, il y avait une conférence avec Jacques Keeble sur la grande aventure de Québec Presse. Alors, en 1969 et 1974, Québec Presse, qui était un journal alternatif, un quotidien qui publiait effectivement des dépêches, des articles sur la situation politique notamment. Et Keeble a fait un retour sur cette histoire et aussi un commentaire, bien sûr, sur l'état des médias aujourd'hui au Québec, qui laisse très peu de place, bien sûr, à l'expression, disons, d'autres opinions que celles qu'on entend généralement jour le jour, exprimées par les Martineaux de ce monde. le 26 avril, Claude Cardinal, à l'occasion d'une conférence historique, est venu présenter son livre sur le ralliement sur l'indépendance nationale. Le 3 mai, les partenaires pour le Québec français, qui représentent plus de 1,2 million de travailleurs sur la question linguistique, il y a eu une sortie publique intitulée « Pour que la classe politique reprenne le combat linguistique ». Donc, c'est paru dans différents journaux. Et le lendemain, il y avait une motion déposée par l'opposition officielle sur la réaffirmation de la langue française comme langue officielle. Et malheureusement, le gouvernement libéral ainsi que la CAQ ont voté contre. Le 7 mai, sorti contre le commissaire aux langues officielles du Canada, Graham Fraser, qui a déposé son rapport et en disant qu'au Québec, il faudrait davantage financer l'intégration en anglais des nouveaux arrivants. Alors, c'est problématique, ça va à l'encontre de notre principe ici au Québec, voulant que la langue commune, c'est la langue française. C'est un peu inquiétant.
Et que bon nombre de nouveaux arrivants francophones se plaignent qu'ils ne trouvent pas d'emploi
En français, ben oui, tout à fait. Bon, le 7 mai également, la Fondation Langelier, dédiée aux Français hors Québec, est devenue la Fondation pour la langue française. On a élargi son mandat pour désormais couvrir également la question du français au Québec. Okay. Il y a pas de fondation entièrement dédiée à la langue française. Alors, c'est une belle initiative. Ça s'inscrit dans le cadre d'une campagne de financement sur 5 ans. On en entendra parler à nouveau. Le 9 mai, sortie contre la manifestation anti-francophone ou anti-bilinguiste qui a eu lieu au Nouveau-Brunswick.
Ça m'a jeté par terre. J'avais pas entendu parler de ça.
Ah oui, c'est assez... Donc, il y a effectivement un groupe d'anglophones qui dénonce effectivement les effets du bilinguisme au Nouveau-Brunswick, qui voudrait que ça cesse. Alors, bien sûr, en toute solidarité pour nos amis acadiens, qui sont très nombreux, malheureusement, à s'assimiler, même le taux d'assimilation annuel est assez effarant. Alors, nous sommes sortis. Le 16 mai, bon, on a fait un hommage à M. Gérard Laframboise à Saint-Philippe, au parc qui porte son nom. Mm-hmm. M. Laframboise est un militant qui a beaucoup fait dans sa vie, notamment pour la langue française et l'avancement des intérêts du Québec. Donc, il y a une plaque qui a été dévoilée.
Ça se trouve où, Saint-Philippe?
Saint-Philippe, c'est près de la prairie. Près de la prairie, sur la rive sud. Alors, c'est un peu ça. Donc, et par la suite, bien sûr, la Journée nationale des Patriotes.
On a parlé de sa raison d'être, mais celle qui est arrivée ce mois de mai, qu'est-ce qui s'est passé?
Une excellente couverture médiatique. Bien sûr, il y a la traditionnelle marche qui a eu lieu. On a relevé dans les médias, effectivement, qu'il y avait un grand nombre de jeunes qui y participaient. Une belle participation, effectivement. Des belles activités aussi, capsule théâtrale historique. Il y a un conteur qui est intervenu. Le Patriote de l'année, Pierre Curzi, a aussi fait un discours, voilà. Il y a eu aussi le monument à Joseph Vincent, qui est un patriote, qui a été inauguré donc par la Société nationale de la région de Longueuil. Alors voilà, à laquelle la SHB a participé également, mm-hmm, quant au financement. Les 23 et 24 mai, fin de semaine dernière, les prix Mérite en histoire remis...
Un gros dossier chez vous.
Ah oui, certainement, parce qu'on a récompensé plus de 600 élèves de Laval et Montréal qui ont obtenu une note de 95% et plus à leur examen de secondaire 4, examen ministériel en histoire. Alors, c'était un bel événement. C'était tellement de gens. Imaginez, avec les parents et les enseignants, il a fallu organiser, non pas un, mais 3 galas.
Alors, c'est une bonne nouvelle qu'autant de monde ait eu 95% et plus en histoire.
Il faut voir aussi à quel point l'examen d'histoire est difficile, mais bon. Donc, ça s'est tenu à...
On s'en parle plus.
Ça s'est tenu à l'école de Plateau. Et enfin, donc avant hier, on a reçu le président du gouvernement provisoire de Kabylie, M. Ferhat Mehini. On se souviendra qu'en avril, nous avions procédé à la première levée mondiale sur le terrain de la Maison de Jésus Vernet. Première levée mondiale du nouveau drapeau Kabyle. Mm-hmm. Kabylie, c'est une région autonomiste de l'Algérie. Et donc, M. Mehini est venu nous voir ce lundi, et on a procédé à une signature protocolaire de ce fameux drapeau. Hier, je l'ai accompagné c'était tout un honneur. Je l'ai accompagné à l'Assemblée nationale. Il y a eu une rencontre avec le chef de l'opposition officielle. D'ailleurs, entre-temps, depuis notre dernière émission, qui a été élu chef du Parti québécois, M. Pierre-Carl Péladeau, et également plusieurs rencontres avec différents députés. Alors, c'est un peu ce qui couvre l'actualité du dernier mois. On parlera aussi des événements à venir, donc, à la fin de l'émission.
On se retrouve effectivement à la fin de l'émission. Merci beaucoup, Maxime Laporte, président général de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. Je pense qu'aux deux dernières émissions, je vous ai appelé Maxime Bouchard pour une raison qui m'échappe complètement, et je ne le ferai pas aujourd'hui. Dans quelques instants, on parle de l'histoire et de l'héritage des Patriotes en compagnie de l'historien, professeur et auteur Marcel Tessier. Merci d'être avec nous et restez là. Aujourd'hui, à CIBL reçoit Entêté d'avenir. On parle des Patriotes, évidemment, à cause du mois des Patriotes, le mois de mai qui se termine, mais un petit devoir de mémoire s'impose, pourquoi pas, ou des rappels, peu importe, pour parler de l'histoire et de l'héritage des Patriotes. Difficile d'être en meilleure main que celle d'une voix que vous allez reconnaître pour la plupart d'entre vous, l'historien, professeur et auteur Marcel Tessier. Merci d'être avec nous.
Bonjour, ça va bien?
Ben oui,
hey,
ça va bien.
Je profite de l'occasion pour féliciter Maxime.
Oui.
Être président de la société fait face à tous les problèmes majeurs de la langue, de la politique, tout ça au Québec. Alors, bravo sur ce que tu fais, puis ça me fait plaisir d'être ici.
Merci beaucoup.
On est bien parti. Bon, pour avoir lu un petit peu, hein, quand même, il faut bien se préparer avant de parler d'un sujet riche comme celui-là. Les trois grandes étapes de notre histoire seraient le régime français, le régime anglais et la Confédération. Et évidemment, on va parler de la lutte des Patriotes pendant le régime anglais dans le cadre de ce segment. En commençant avec l'acte constitutionnel de 1791.
Exactement, 1791. Si on regarde, là, pour vraiment cerner les Patriotes, la chose des Patriotes, 1791, c'est l'acte constitutionnel. À ce moment-là, l'acte constitutionnel va récupérer des loyalistes, qu'on appelle. Les loyalistes, ce sont des Américains qui ne veulent pas d'indépendance. Il y en a ici pas mal, là, ça. Ils pas d'indépendants. En tout cas, c'est de leurs affaires. Mais ils ne voulaient pas d'indépendants. Alors, ces gens-là sont venus s'installer dans la province of Québec. Province, ça veut dire colonie du Québec. Bien important.
Et du latin provictis, pour les vaincus.
Pour les vaincus, c'est ça, exactement.
Ah, vraiment? Ah, ça, je savais
pas. Oui.
Bon à savoir.
C'est ça. Alors là, eux autres vont demander deux choses. Ils vont demander d'abord un district séparé. OK? Et deuxièmement, une chambre d'assemblée. Ça, c'est important, parce qu'ils en ont une chambre d'assemblée dans leur État. Alors, ces gens-là s'amènent ici, ils vont, l'Angleterre va leur accorder le Haut-Canada, c'est l'Ontario actuel, ou à peu près, et le Bas-Canada va être, si vous voulez, la province de Québec qu'on connaît aujourd'hui.
Ouais.
Alors, ces gens-là, premièrement, un territoire. Deuxièmement, une chambre d'assemblée. Mais c'est là que ça se complique. Ici, on n'a jamais eu de chambre d'assemblée.
Ouais.
Alors, il y a des gens, bien sûr, qui s'occupent de la politique, il y a des notaires, il y a des gens, des notables, des médecins, tout ça. Seulement, on va avoir des députés élus par le peuple, mais c'est un gouvernement non responsable.
Qu'est-ce que ça veut dire, ça, non
voilà,
responsable?
Voilà, vous allez me dire, tous les gouvernements ne sont pas responsables, monsieur.
C'est en effet facile
c'est
à dire.
C'est pas ça que ça veut dire. Écoutez-moi bien, c'est pas ça du tout que ça veut dire. Un gouvernement non responsable. Premièrement, le roi d'Angleterre nomme un gouverneur, OK? Le gouverneur fait office de premier ministre. C'est important. Donc, c'est un Anglais, bien sûr, il est nommé par... Ce gouverneur-là va nommer le législatif. C'est comme le Sénat. Le conseil qui approuve ou réprouve les lois, OK? Et le peuple va voter pour les députés.
Mais leur poids démocratique est
plus
ou moins absent.
C'est qu'au Québec, dans la province of Québec, ce qui arrive, c'est que la majorité va faire partie du Parti canadien, un parti de Canadiens français. Seulement, ça peut toujours être boycotté, rendu en haut. C'est ça. Le fond de l'histoire, c'est là. Alors, à un moment donné, il commence à suivre. Il va avoir Louis-Joseph Papineau, il va avoir Lafontaine. Bon, là, je vois vite sur les noms, là. Mais à un moment donné, il va y avoir un parti politique qui va se former, le Parti canadien. Et ça, c'est important historiquement. C'est une nuance, mais c'est important. Parce qu'on va voir qu'à un moment donné, le Parti canadien va scinder en deux. Le Parti canadien va demeurer avec Neilson, N-E-I-L-S-O-N, pas Nelson, là.
Neilson.
OK? Parents, puis des gens comme ça.
Ouais.
Dans la région de Québec, à peu près. Tandis que dans la région de Montréal, ça va être le Parti des Patriotes. C'est important parce que, écoute, là, je fais une petite parenthèse. Si on regarde actuellement les députés élus dans la région de Québec, au fédéral comme au provincial, il n'y a pas grand péquiste là.
Il y a 3 heures de route et pourtant des différences
marquées.
Mais tu
vois, hein? Alors historiquement, il y a quelque chose là. En décompte, on part. Fait que là, à un moment donné, c'est ça, le Parti des Patriotes va demander, va envoyer les 92 résolutions. Ce sont des résolutions par lesquelles on demande un gouvernement responsable. Dans le fond, c'est ça, OK? L'Angleterre veut rien savoir de ça. C'est sûr qu'il veut rien savoir de ça. Parce que s'il accepte, hop, ça frôle l'indépendance, cette affaire-là. Hein? Ils veulent pas. Ils veulent garder la province of Québec, bien sûr, bien sûr. Alors, on va répondre par les 10 résolutions Russell. 10 résolutions Russell. Et c'est là que le Parti patriote va commencer à faire des assemblées un peu partout.
Ouais.
Hein? Et en disant, écoute, on ne veut pas, puis on va se battre contre ça, puis on veut la démocratie, puis tout ça. Ça va-tu jusque-là?
Ça va très bien jusque-là. Et vous?
Ben moi, ça va bien.
Bon, super.
L'autre question.
Ben, d'autres questions, ben... Ouais, une question de curiosité, là. Les patriotes, est-ce qu'ils avaient traduit leurs questions avant de les envoyer en Angleterre?
Probablement. Faut dire que Papineau, là,
ouais.
C'était pas un inculte, ce gars-là. Là. Mm-hmm. Et puis Norbert Morin non plus. Morin, c'était pas un inculte non plus. C'était des gens qui étaient vraiment instruits, parlaient très, très bien anglais.
Ouais.
Faut pas oublier ça. Et les patriotes, je fais... En autre part, je suis bon aux parenthèses. Quand je donnais une cours, je faisais toujours les parenthèses. Mais les élèves aiment ça.
Oui?
Ben oui, ben oui, ben oui. C'est que les patriotes, souvent les gens pensent « Ah, ce sont des Canadiens ou des Canadiens français de l'époque uniquement. »
Ah, c'est pas une parenthèse, c'est majeur que de mentionner ça et que de le rappeler.
C'est pas vrai. Il y avait des Irlandais, il y avait des Anglais, puis il y avait des Canadiens français, bien sûr. Mm. Alors, à ce moment-là, c'était tous les gens, ben pas tous, mais une partie des gens de la province de Québec qui demandaient un gouvernement responsable.
Et
ça, c'est important.
C'est pas pour rien que le drapeau des patriotes a trois couleurs et ça représente justement...
Et que c'est bon de savoir ça.
Ah oui, hein?
Félicitations! Félicitations! Alors, bon. C'est ça. Alors là, on connaît la suite.
Hein? Oui.
Ben, Papineau va s'en aller. La Fontaine va être emprisonnée à un moment donné. Et ce sont les frères Nelson, surtout. Hein? Il va y avoir les combats. On ne s'étirera pas là-dessus. Là. Mm-hmm. Saint-Denis, Saint-Eustache, puis tout ça.
Il y avait une volonté de Papineau et de La Fontaine de ne pas prendre les
exactement.
Armes. Mais il y en a d'autres qui l'ont fait à leur place.
Finalement. Exactement. Souvent, il y en a qui vont accuser Papineau. C'est un peu heureux! C'était un peu heureux! Il s'est poussé, déguisé en femme, en passant par Saint-Hyacinthe. Pas parce qu'il était peureux, sa tête t'a mis à prix. Et c'était vraiment le politique le plus important de l'époque. Alors, il fallait qu'il sauve sa peau, Papineau. Mm-hmm. Alors, à un moment donné, c'est ça. Puis là, ben, on va avoir, suite à ça, des combats terribles. Tu sais, des combats, quand on parle de combats, tu sais, des gens... Ça me choque souvent quand j'entends certaines personnes raconter, comme au 400e anniversaire de Québec,
okay. Tu sais.
Oh, la bataille des plaines d'Abraham, il n'y avait pas grand-chose là-dessus. Ça a duré 3 mois. La basse ville, il restait quasiment... C'est épouvantable. Mm-hmm. C'est, on minimise. Le combat des patriotes, si vous vous promenez dans la région de Saint-Eustache-Saint-Benoît, par exemple,
okay.
Les granges ont été brûlées, les maisons ont été brûlées, les femmes ont été violées. C'était vraiment là, une guerre. Là.
Ouais.
Et ce qu'il y a de pire, c'est encore la même chose aujourd'hui, c'est que le peuple canadien et français était divisé. Et ça, ça n'a pas changé.
Mm-hmm.
Tu sais, tu avais les Chouagans, c'est-à-dire des gens qui étaient, c'est ça, qui étaient avec les Anglais.
Ouais.
Et puis, il y avait le clergé. Ça, là, à 81 ans, quand je parle de ça, ça ne me fait plus rien. Là. Mais quand j'étais plus jeune, puis j'étais de la radio, puis je parlais contre le clergé, les animateurs disaient toujours, « Attention, M. Tessier, le téléphone, le téléphone.
Ouais. »
Parce que, hey, tu sais. Mais le clergé, que celui était contre les patriotes.
Mm-hmm.
Faut relire les discours des curés dans la chaire à ce moment-là. C'est épouvantable. Vous allez aller chez le diable, vous allez en enfer. C'est terrible, terrible. Et le monde avait peur.
Oui.
Tu sais, vraiment. Alors, c'est pour ça, ça l'a aidé à la division du peuple. Et les patriotes, bien, c'est sûr, quand ils arrivent à une armée, face à une armée comme celle de Colborne, le vieux Brulot, tout ça, ils n'ont pas tenu, blablabla.
C'est bien beau la volonté, mais au niveau de la quantité de personnes, c'était pas mal fait d'avance. Ça,
exactement. Puis il y avait le combat des femmes en même temps. Il y a des femmes qui ont aidé les patriotes indirectement en fabriquant des missions. Tout ça. Alors, l'histoire des patriotes, c'est une histoire importante dans l'histoire du peuple québécois. Parce que vraiment, on aura un jour à répéter cette histoire d'une façon démocratique. On l'aura un jour à faire. Parce qu'on ne peut pas dire, je ne veux pas non plus comparer, il y en a qui vont m'assommer, mais envoyez-moi toutes les roches que vous voulez. Là. Le gouvernement fédéral actuellement, face à la province of Québec, C'est comme l'Angleterre face aux Patriotes à ce moment-là.
Ça se compare au niveau comportemental.
On mène rien.
Ouais.
On n'est pas majoritaire, on mène rien, ni les juges, ni le Sénat, ni les ministres. Ni... Et ça sera toujours comme ça.
Ouais.
Regarde juste pour l'affaire du pétrole, là. C'est épouvantable. La majorité des Québécois dans le fleuve Saint-Laurent, puis tout ça, puis les rivières, puis même chez nous, ça tente des peines. On va avoir un tuyau qui passe dans nos champs. C'est épouvantable. Mais tu sais, il n'y a pas aucun parti politique au fédéral qui est contre. C'est terrible, là.
Ouais.
Alors, juste pour cette raison-là, les Québécois devraient dire, wow, je vais savoir pour qui voter aux prochaines élections.
Moi, ça m'avait fasciné, je pense, aux dernières élections fédérales, l'espèce de carte dressée par Radio-Canada sur une panoplie d'enjeux, une espèce de gros sondage, et que, peu importe le type de couleur, ben, le Québec était toujours différent des réponses des autres. Mais bon, Monsieur Tessier, on se remet historiquement, peut-être.
Oui, correct, ça va me ramener.
On a fini par en avoir un gouvernement responsable, mais avant, il y a eu quelque chose de très mal. En 1840, c'est une date qui est frappante.
Le rapport Durham. Hein?
Cher Monsieur
Durham. En fait, arrive ici, au nom de Angleterre, Hampton, qui s'appelait son nom.
Okay.
Et puis, il arrive ici, puis il regarde les problèmes qu'il y avait. Puis, il y en avait dans le Haut-Canada, des problèmes aussi. Il ne faut pas oublier, là. Il y avait William Lyon Mackenzie, qui est le grand-père de Mackenzie King, qui était chef d'un mouvement patriotique aussi. C'est la même chose. Souvent, quand tu dis ça aux Canadiens français, des fois, je fais des discours.
Ça arrive.
Puis, je leur dis ça. Je parle des patriotes, puis là, je le vois faire. Tu sais, ils sont sceptiques. Mais quand tu leur dis, ben au Canada aussi, ah oui, comme ça, ils sont pas si pires que ça. Ben, c'est ça, la colonisation. C'est exactement ça. C'est absolument ça. Alors, il y a eu le rapport Durham. On peut le lire. Google, si vous ne croyez pas, Google. Le rapport Durham, en anglais, bien sûr. On va dire en résumé. Canadien français, c'est un peuple sans histoire ni littérature. Puis pour son propre bien... Il faut les assimiler.
Ce n'est pas du tout infantilisant.
Bah, écoute, quand t'entends ça, t'es un Québécois. Moi, écoute, ça n'a pas de bon sens.
Ouais.
Fait qu'on va faire pour l'assimiler l'acte d'union. On va unir le Haut et le Bas-Canada en une seule province, avec la seule langue anglaise pour parler.
Mm-hmm.
On va avoir le même nombre de députés, même si on a 200 000 personnes de plus. Puis on va nous obliger à payer les dettes du Haut-Canada. L'acte d'union 1841.
Vous n'avez pas d'histoire, mais vous avez de l'argent. C'est un peu ça.
C'est ça. Mais c'est épouvantable. C'est qu'on va perdre notre parlement aussi.
Carrément.
On va avoir un seul parlement. Ils vont être à Montréal à un moment donné, c'est ça. En 1848, Elgin, le gouverneur,
ouais,
va donner la responsabilité ministérielle grâce à La Fontaine et Baldwin, OK, du Haut-Canada. Pour la première fois, on va avoir un gouvernement responsable. C'est déjà ça de gagner. Mais le Parlement est à Montréal. Les Montréalers sont en maudit. Savez-vous ce qu'ils vont faire? Ils vont mettre le feu au Parlement.
Donc, pour avoir un gouvernement responsable...
Et même les pompiers sont là, puis ils arroseront même pas.
Ça leur tente pas tant que
pour
ça,
qu'il brûle.
Il me semble que c'est même le chef des pompiers qui a commencé... Perry.
Ben oui, c'est ça. Exactement. Ça, ils ont mis le feu.
On a combattu le feu par le feu, finalement, comme on peut dire.
Non, mais moi, c'est parce que... Tu sais, l'histoire, quand tu regardes ça, c'est important qu'on en parle.
Oui.
C'est important. Je peux pas comprendre, tu sais... qu'on ne comprend pas pourquoi il faut être indépendant.
Mm-hmm.
Je ne peux pas comprendre ça. En tout cas, peut-être que ma tombe m'arrive. Là, dans 3-4 ans, le monde va dire « T'es mort, on parle trop. » Il y a d'ailleurs un chef politique qui m'a dit ça. Bouchard, nommé Bouchard.
Ah, ouais.
Ah, il avait dit « M. Tessier, il avait rencontré ma petite-fille. »
OK.
Une petite-fille, il y a 25-26 ans, dans le temps. « Ah, votre grand-père, c'est un bon... » Les Québécois l'aiment beaucoup, mais il parle trop. Ben, tu sais, il a dit oui. Ben, c'est parce que des fois, il dit des choses, c'est pas tellement politique. T'sais? Ben oui. Je ne suis pas politique. Moi, je ne suis pas en politique. J'ai le droit de parler. Puis j'ai le droit de dire, M. Bouchard, pendant bien des années, M. Bouchard, vous n'avez pas parlé d'histoire beaucoup pendant votre règne.
Mm-hmm.
Alors, peut-être que vous ne pouviez pas, peut-être que vous ne la connaissiez pas. Vous la connaissez sûrement. Vous êtes un homme qui a lu beaucoup. Je l'aime beaucoup, dans le fond.
Ouais.
J'aime mieux Pierre Carl.
Oh là là! ça, ce sera pour une autre émission, mais pour ce qui est de l'héritage, des patriotes. Évidemment, on a parlé du gouvernement responsable, c'est très bien. À part le gouvernement responsable des noms de rue au pied du courant, là, aujourd'hui, l'héritage des patriotes, qu'est-ce que c'est?
C'est la Société Saint-Jean-Baptiste. C'est des gens qui se mouillent pour continuer le combat et qu'ils font avec beaucoup de courage. Dans certains cas, ça prend du courage pour dire ce que les patriotes ont fait, pour raconter et puis pour aller de l'avant là-dedans. C'est sûr que quand, par exemple, tu es annonceur ou tu es historien, puis tu travailles dans un poste de télévision ou de radio, à un moment donné, quand tu vas trop loin avec ça, quand tu dis, par exemple, que c'est épouvantable, les Acadiens, là, ça, c'est épouvantable de faire ça, puis la mort de Louis Liel, puis que tu parles contre McDonald's, par exemple, c'était un raciste épouvantable. Alors, eux autres, là, toujours les téléphones, hein, M. Tessier ou un autre, parlait pas trop de ça, ça nuit au publicitaire, tu sais. Ben, c'est ça. Alors, c'est pas facile d'être en avant. Alors, M. Sommet, je pense que là, tranquillement, si on se remet à parler d'indépendance, de fierté, d'histoire, mais je pense que les jeunes, tu sais, ils sont pas, ils sont là pour écouter. Mais si on dit rien, ben qu'est-ce que tu fais? Ils écoutent pas.
C'est déjà très encourageant qu'ils étaient nombreux, visiblement, à la journée, le 18, beaucoup de jeunes présents à l'événement. Bon, on a parlé de Pierre Curzi, patriote de l'année cette année.
Oui.
Vous l'avez été, vous aussi,
ben,
en 2001.
En 2001.
Est-ce que... Ben justement, c'est évidemment, patriote de l'année, un prix décerné par la Société Saint-Jean-Baptiste. Est-ce que vous vous considérez comme un patriote?
Ah ben, mon Dieu, oui. Un patriote, et puis depuis longtemps, depuis au moins 50 ans... Ah oui, j'ai toujours. D'abord, j'étais dans la Vienne,
oui.
Avec Bourgogne, puis l'Allemagne, puis tout ça. Fait que non, non, moi, c'est vraiment... non, non, moi, je pense que si un jour on n'a pas notre pays de mon vivant, ben je vais être très malheureux. Mais ça va se faire!
Mais là, vous avez parlé de quelques années, là. Bon, on vous en souhaite d'autres, finalement.
Bien fait.
Pour que ça arrive, tout ça, moi, je suis pas inquiet. Vous avez l'air bien, bien vivant. Il n'y a pas de problème. Oui, oui, exactement. Une phrase que j'aime bien, puis il nous reste un peu de temps. Alors, pourquoi pas? On a dit qu'on allait peut-être en parler plus tard. Une des phrases que vous avez affirmée, qui est très frappante, c'est, vous l'avez paraphrasée tantôt. Si les Québécois connaissaient leur histoire, ils seraient souverains depuis longtemps. Et on a parlé des prix. En histoire, au secondaire, beaucoup de 95% et plus. Alors, en tant que professeur, le cours d'histoire au secondaire, qu'est-ce qu'on pourrait y apporter?
J'ai enseigné à peu près 25 ans l'histoire au secondaire. Le programme a changé un peu. Ça a longtemps que je n'ai pas regardé le programme du ministère. Ça m'en sait qu'on l'enseigne un peu en 3 et en 4. Et c'est que c'est la même matière, mais enseignée différemment. En tout cas, je ne veux pas mêler les cartes.
Oui, oui.
Mais quand même, on enseigne l'histoire. Mais il y a une chose. J'ai donné quelques conférences dans les écoles primaires.
Mm-hmm.
Tu sais? Alors, parce qu'on enseigne l'histoire maintenant dans les écoles primaires. Mais là, il faut que je fasse attention, parce que des fois, les enfants avaient peur de moi quand ils me regardaient. Je chantais ça. Alors, il fallait que je diminue mon
frère. Le débit.
Ben oui, le débit, c'est ça. Mais c'est que les professeurs, les maîtresses d'école, la connaissent pas. Alors, j'arrivais là, je disais, bon, ben, mademoiselle, bonjour, ça va bien. Là, vous êtes rendu où dans votre programme, tu sais? Ben, elle me disait, je suis rendu, admettons, à telle place, telle place. Mais elle dit, monsieur Tessier, je vous avertis, moi, je connais rien là-dedans. Je suis à peu près un chapitre en avant des élèves, tu sais. Parce qu'à l'université, on ne me l'a pas enseigné. Et c'est vrai, c'est qu'on forme des profs, mais ils s'en vont enseigner, je ne sais pas, en 4e, 5e ou 6e année du primaire, parce qu'on a mis ça au programme. Mais les professeurs ne sont pas prêts. Ils ne la connaissent pas. Pas parce qu'ils ne veulent pas, ils ne la connaissent pas, pas parce qu'ils ne sont pas bons. Mais ça les intéresse pas, alors ils en font un petit peu, mais pas plus qu'il faut. Alors, il faudrait former des professeurs d'histoire.
Bien, à court terme, pendant que tout ça change, les programmes universitaires, bien, les étudiants en pédagogie qui s'en vont enseigner l'histoire aux primaires et secondaires, bien, ils peuvent vous lire aux éditions de l'Homme, ça
ben
serait
oui,
pas
mais
mal.
c'est ça. C'est souvent, je leur dis, tu sais, ils me disent ça, je connais pas l'histoire, mais je dis, bon, écoutez, madame. Aujourd'hui, j'ai plus raison. Pas seulement que mes livres, il y a La Courtière, puis il y en a d'autres, là, bon, Rick, là, bon, Bédard, tout ça. Il y a aussi, sur Internet, Voyons donc. Si tu veux avoir l'acte d'union, si tu veux savoir la biographie de la Papineau, ben, t'as plus de raison. La seule chose, un professeur du primaire qui va pas lire ou qui va pas sur Internet pour s'informer davantage, ça se peut-tu que ça l'intéresse pas trop?
On va s'arrêter là-dessus, sur ce questionnement, ma foi, très pertinent. Marcel Tessier, professeur, auteur, historien, ça a été vraiment un plaisir de vous avoir
à l'émission. Moi aussi, c'est le fun!
Puis dans quelques instants, ben une autre entrevue, tabarouette, ouais, avec Danick Paranto. Hein? On lâche pas. Danick Paranto, essayiste, professeur de philosophie et de sciences politiques au Collège militaire royal de Saint-Jean. On va se poser la question, est-ce que les Québécois ont une nature historiquement républicaine? Eh bien, après les pubs, la version de Danick Paranto. À tout de suite.
Soyez prêts pour la 36e édition du Festival international de jazz de Montréal. Les couleurs SAQ vous offrent l'époustouflante Molly Johnson rend hommage à Billie Holiday, la pop orchestrale de Natalie Press, Joyce Marino et son hommage au grand compositeur brésilien, et une soirée de jazz, de ragtime, de country blues et de swing avec Pokey LaFarge. Billets au clubsoda.ca. Présenté par TD en collaboration avec Rio Tinto Alcan en association avec La Presse Plus et CIBL.
Ici Gilles Payet. Avec mes collaborateurs, je vous invite à Catherine et Laurent. Soyez branchés sur le rythme urbain et l'actualité montréalaise.
Pour tout savoir ce qui se passe à Montréal, découvrez les événements incontournables, les sorties, les artistes émergents, toutes les activités en cours et plein de performances en direct dans nos studios.
Catherine et Laurent, en semaine dès 16h, le retour à la maison 100% culturel de CIBL 101.5 Montréal. Les mercredis, 18h, vous avez Droit de cité. Deux équipes d'étudiants universitaires s'affrontent dans une véritable joute oratoire.
Prochain débat, pour ou contre l'abolition du Sénat du Canada.
Droit de cité, mercredi, 18h, à CIBL 101.5 Montréal. Une coproduction du Barreau du Québec, de la clinique juridique Juripop et de CIBL, en partenariat avec notre commanditaire principal, Québécois.
En direct sur le web et sur Illico, chaîne 574, nos chroniqueurs sont branchés sur tout ce qui se passe en ville. Films, expositions, événements culturels, restez vous aussi bien branchés au CIBL1015.com, la radio citoyenne de Montréal.
Pour animer Montréal, CIBL 101.5.
On est de retour à CIBL reçoit Entêté d'avenir en collaboration avec la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, édition du 27 mai 2015, consacrée aujourd'hui au mois des Patriotes. Guillaume Touzel-Bonde, toujours avec vous, et pour nous parler des idéaux républicains que véhiculaient les Patriotes et qui pourraient gagner à être davantage véhiculés aujourd'hui même aussi, avec nous au téléphone, le professeur de philosophie et de sciences politiques au Collège militaire royal de Saint-Jean, également auteur essayiste, Danick Paranto. Merci d'être avec nous.
Bonjour.
Bon, évidemment, pour beaucoup de gens, et moi le premier, bien franchement, avant d'avoir préparé l'entrevue, le mot républicain, ça évoque évidemment le grand parti américain qu'on peut qualifier de droite. C'est beaucoup plus que ça. Comment est-ce qu'on définirait de façon plus exacte le mot républicain ou le républicanisme, du moins?
Ben, en fait, je vous dirais, c'est pas beaucoup plus que ça. C'est pas du tout ce que le républicanisme est avec les républicains des États-Unis. Le modèle politique républicain, dont les origines sont très anciennes, et vont connaître les ordres de gloire au moment des grandes révolutions libérales ou démocratiques au 18e, 19e siècle, c'est un régime politique qui repose sur le principe que le peuple est souverain. C'est-à-dire que le peuple, comme acteur politique, est capable de prendre en charge son destin politique. Et les institutions politiques qui en émanent sont donc nécessairement des institutions qui sont les siennes. Et pour résumer dans cette belle formule qui était celle d'Abraham Lincoln, on peut définir la République ou le gouvernement républicain comme étant le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple.
Mm-hmm. Donc le peuple est là en premier, puis un peu dans vos écrits, on y reviendra un peu tantôt, ce républicanisme québécois, si on veut, de l'époque des Patriotes, aujourd'hui même en question, serait en opposition au libéralisme canadien, dans le fond.
Ouais. Ben, c'est-à-dire que le modèle républicain en sciences politiques, on emploie généralement le terme république pour désigner un régime politique particulier que l'on oppose habituellement, bien sûr, à la monarchie. Ce qui, dans le contexte canadien, bien sûr, si je parle du républicanisme des Québécois, ben on met en opposition à ce moment-là cette pratique politique-là avec le régime canadien, qui est une monarchie constitutionnelle. Mais ce qui est plus important, à mes yeux, je pense, mm-hmm. c'est que le modèle, dans la grande famille des démocraties libérales, tous les grands pays de l'Occident aujourd'hui sont des démocraties libérales, il y a quand même deux manières de concevoir la société et le pouvoir politique. Et en ce sens-là, s'opposent deux grands modèles qui sont d'un côté le libéralisme anglo-saxon, dominant au Canada, dominant aux États-Unis, notamment en Grande-Bretagne, et l'autre modèle qui est celui du modèle de la République ou le modèle républicain que l'on trouve notamment en France, en Italie, en Allemagne, de même qu'aux États-Unis au début de la République américaine, de moins en moins, c'est un pays qui a évolué d'une forme de républicanisme dans les pratiques sociales et politiques vers le libéralisme anglo-saxon, si bien qu'aujourd'hui, entre le Canada et les États-Unis, même si l'un, le Canada, est une monarchie, l'autre, une république, dans la pratique politique, dans la conception du pouvoir et de la société, on a deux sociétés qui sont très proches, qui sont donc dominées par les idéaux du libéralisme anglo-saxon.
Et ben, ce qui nous différencierait, c'est la façon d'envisager la société, finalement, qu'on a ici.
Oui, tout à fait. Non seulement la société, mais aussi la manière de concevoir le pouvoir politique. Et les Québécois, moi, c'est ce que j'ai défendu comme thèse à mon précis républicain, l'usage des Québécois, donc l'essai que j'ai fait paraître l'an dernier, toujours chez Fidesz, c'est que les Québécois, on trouve chez les Québécois une certaine pratique, une certaine conception des repères républicains, qui sont bien sûr, qui ne sont pas incarnés dans des institutions politiques qui leur sont propres, mais certains réflexes politiques par rapport à la laïcité, par rapport à la place du peuple dans le système politique, par rapport au rôle de l'État dans la promotion ou la sauvegarde de l'identité nationale, par rapport à l'intérêt général, les Québécois conçoivent qu'il entre dans la mission fondamentale de l'État de préserver l'intérêt général. Ce qu'on ne trouve pas fondamentalement dans la mission, dans une perspective libérale anglo-saxon, où l'État est essentiellement un organisme gestionnaire des affaires courantes de l'État et laissant à chacun le soin de veiller à leurs propres intérêts.
Donc, c'est ça, justement, c'est ce que vous affirmez dans le précis républicain à l'usage des Québécois, c'est que sans trop le savoir, ben, historiquement, on est pas mal républicain, finalement, au Québec. Ouais. Comment ça s'est articulé au fil du temps, ça?
Bien, évidemment, on peut faire remonter à ce républicanisme-là au début de la colonie française, c'est ce que les travaux de Marc Chevrier et d'autres ont tenté de démontrer. Mm-hmm. Moi, ce qui m'intéresse davantage, c'est de voir comment la société québécoise actuelle témoigne de certains repères républicains. Dans certains cas, par exemple, le cas de la laïcité, bien sûr, cette pratique plus laïque. Il faut savoir, au Québec, là, il y a un vaste consensus autour du principe de la laïcité. Lorsqu'il y a eu la charte la laïcité, ensuite renommée Charte des valeurs, il y avait un large consensus. Tous les partis à l'Assemblée nationale, par exemple, étaient tous d'accord sur le principe. Là où il y avait divergence, c'était sur l'extension de l'interdit des signes de port religieux par les fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions. Donc, c'est un détail, mais le grand principe, il y a un consensus, ce qu'on ne trouve pas au Canada. Au Canada, les Canadiens sont bien attachés. Ils ne souscrivent pas au principe de la laïcité. Donc, leur rapport religieux est différent. Dans le cas du Québec, on comprend bien, cela trouve ses origines essentiellement dans le rejet assez brusque, je dirais, de la religion au moment de la Révolution tranquille. Donc, ça, c'est un des aspects. Sur la place de l'État, il faut savoir que les Québécois perçoivent dans l'État, généralement, une institution au service de leurs intérêts, des intérêts de l'intérêt général. En quelque sorte, l'État a remplacé le rôle qui était celui de l'Église avec la Révolution tranquille. On lui a confié un mandat propre de veiller à la sauvegarde, à l'exploitation des ressources naturelles de l'État, en créant notamment Hydro-Québec. Donc, notre rapport, les Québécois, avec nos ressources naturelles n'est pas le même qu'on trouve au Canada.
Ouais.
Les Canadiens anglais voient très bien qu'une industrie privée de grandes corporations internationales viennent exploiter des ressources, comme on le trouve, par exemple, en Alberta. Alors qu'au Québec, les Québécois sont très réticents. On l'a vu, le combat qui a été mené contre les gaz de schiste. Je ne crois pas que les Québécois soient fondamentalement plus écologistes que les Canadiens. Mais ce qui est certain, toutefois, c'est que les Québécois voient dans les ressources naturelles leurs ressources et acceptent très mal que des entreprises étrangères viennent exploiter ces ressources, alors même qu'eux ne pourraient pas en tirer profit.
Ouais, je crois que c'est un exemple qui illustre bien justement cette différenciation-là. Vous parliez du fait que vous vous intéressiez davantage au présent. Aujourd'hui, à CIBL Reçoit, on parle des patriotes qui véhiculaient un peu ces idéols-là, différemment bien sûr, en 1837-38. Pourquoi prônait-il ce modèle-là et en quoi c'est semblable à notre situation aujourd'hui?
Le modèle, c'est un modèle ancien. Les patriotes s'inspiraient des mouvements révolutionnaires qui secouaient les Amériques à ce moment-là. On a tendance à imaginer, nous, que les troupes de 37-38 étaient des troupes isolées. Bon, bien sûr, on peut faire le parallèle avec les troubles qui se passaient au Canada à ce moment-là, dont les tenants, les aboutissants ou les motivations n'étaient pas les mêmes. Mais en général, on rattache très peu ce mouvement politique-là aux mouvements qui ont secoué l'Amérique latine au même moment où l'Amérique du Sud. Donc, l'idéal républicain était au fondement de la fondation de la République des États-Unis d'Amérique, mm-hmm, en 1776, mais bien par la suite à la création de la Grande Colombie, tous les mouvements qui ont secoué donc ce nouveau continent-là, et les patriotes en faisaient partie. Ça se rattachait d'un mouvement général. Donc, on s'en prenait au pouvoir impérial de la Grande-Bretagne ici depuis la conquête, mais ailleurs, on s'en prenait au pouvoir impérial de l'Espagne ou du Portugal, mais le rapport au pouvoir était le même, et ce qu'on revendiquait essentiellement, c'était un pouvoir pour le peuple et par le peuple. Mm-hmm. On s'en prenait au pouvoir impérial, on s'en prenait à la clique du château, mais dans tous les cas, on voulait mettre au cœur du système politique le peuple. Donc, c'était des républicains, et en ce sens-là, bien que nos combats contemporains aujourd'hui, où je parle ici pour le mouvement indépendantiste et celui, ouais, des patriotes, puissent être différents à bien des égards, ils se rejoignent toutefois, je pense, dans cette volonté de redonner au peuple un plus grand pouvoir à l'intérieur même de leur système politique.
Mm-hmm. Et là, bon, vous êtes, ma foi, productif. On a parlé de votre précis républicain à l'usage des Québécois qui date de l'an dernier, mais là, il y a moins de deux semaines, un nouveau bouquin, L'indépendance par la République, de la souveraineté du peuple à celle de l'État. Évidemment, bon, on reparle un brin de souveraineté avec l'élection de Pierre-Carl Péladeau, entre autres, comme chef du Parti québécois. Avouons quand même que le mouvement n'est pas à son plus fort pour autant, mais dans le fond, cette suite logique, si on veut, d'un livre à l'autre, là, vous proposez cette avenue là, pour revigorer le mouvement jusqu'à dire que c'est la seule façon de réussir à concrétiser l'indépendance, finalement.
Ben, en fait, le problème, c'est que le concept même de souveraineté, depuis que les indépendantistes se sont appropriés ce terme en lui donnant un nouveau sens, un néologisme, donc souverainiste, on a davantage pensé ou conçu le concept de l'idée de souveraineté au Québec comme étant ce caractère fondamental rattaché à l'État du Québec, comme s'il s'agissait donc pour cette province, actuellement un État fédéré qu'on nomme province dans le régime canadien, mm-hmm, cet État fédéré du Québec accédant au plein statut d'État souverain. Donc l'idée de souveraineté, on la rattache davantage à celle d'un État. Mais plus fondamentalement, c'est un peuple qui est d'abord souverain, qui peut procurer à une institution politique, à un État, qu'il soit indépendant ou pas, son caractère libre, son caractère de souveraineté. Donc, l'insistance doit davantage être mise sur le peuple souverain qui lui-même peut garantir à des institutions politiques leur caractère de légitimité et leur caractère de souveraineté. Donc, c'est le sous-titre de la souveraineté du peuple à celle de l'État. Moi, je pense que c'est comme ça qu'on doit penser aujourd'hui le projet indépendantiste comme étant un processus par lequel le peuple québécois s'approprierait, je dirais même pas réapproprierait, mais s'approprierait ses institutions politiques. Ce qui, ouais, n'est pas le cas actuellement dans le régime canadien.
Et de s'affirmer, de s'assumer républicaniste jusqu'à un certain point, comment ça se fait que ça n'a pas été joué avant, cette carte-là, disons?
Ben, c'est-à-dire que le modèle républicain, dans les années 60, on en parlait déjà, le RIN était, ouais, en quelque sorte animé par l'idéal républicain. On trouve dans certains discours de René Lévesque, au moment de la fondation du MSA, des repères républicains. Mais par la suite, cela tient-il peut-être à un choix stratégique? On s'est rendu compte qu'il était plus simple de régler la question du statut politique en mettant de côté la question du régime politique. Mm-hmm. Mais moi, je pense que c'était une erreur stratégique. Bon, évidemment, on ne fera pas le procès de ces grandes stratégies-là.
On n'a pas le temps.
Mais aussi, évidemment, dans le contexte politique à l'époque, finalement, cette stratégie-là a pratiquement fonctionné en 95 aussi. Il ne faut pas tout rejeter. Mais je pense que, fondamentalement, la question de l'indépendance du Québec doit toucher à la fois la question du statut politique du Québec, à savoir si le Québec doit demeurer une province ou devenir un État indépendant, mm-hmm, mais aussi, et tout aussi fondamentalement, la question de la Constitution, c'est-à-dire du régime politique qui émanera et de la manière de faire aboutir ce projet politique. Et c'est ce que je propose ici avec une voix républicaine. Donc, à la fois une démarche constituante et un référendum pour statuer du statut politique du Québec.
Oui, c'est... Ben, en fait, il y a tellement d'endroits dans le monde, je crois que c'est plus de 80% qui sont des républiques. C'est une question un peu trop large pour la cause, mais pourquoi pas nous, justement?
Ben, pourquoi pas nous? Ben, en même temps, je parle effectivement, c'est 85% des États qui sont des républiques. C'est pas une raison pour être républicain pour autant, je
non.
pense. Toutefois, cela étant dit, dans la mesure où les Québécois, dans leur pratique sociale, présentent déjà des repères républicains, et d'autant plus que le régime monarchique qui est le nôtre, au Canada, j'entends, est un régime qui est essentiellement étranger à ce que nous sommes. Mm-hmm. C'est une monarchie étrangère. Il n'y a rien pour nous, les Québécois, pour nous faire tendre vers un régime monarchique. Donc, nous, tout naturellement, si on accédait à l'indépendance, on pencherait vers une république, ça va de soi. Mais encore là, je pense qu'il faut écouter cette pratique sociale québécoise-là qui tend déjà vers le républicanisme et l'amener à terme nous conduit nécessairement à l'indépendance. On ne construira pas une république dans le régime monarchique canadien. Donc, l'indépendance devient ici, en quelque sorte, une finalité, au contraire, un moyen... Ouais. Pour cette création, cette fondation d'une République libre qui, elle, serait le projet, l'expression d'une volonté collective du peuple québécois de reprendre en main son destin politique.
Le temps file, je crois qu'on va s'arrêter ici. C'était très intéressant. Vous l'avez mentionné aux éditions Fidesz, Précis républicain à l'usage des Québécois, et Le Petit Nouveau, l'indépendance par la République de la souveraineté du peuple à celle de l'État. Il y a également votre site web où on peut accéder à d'autres publications que vous avez écrites et tout ça. C'est quoi l'adresse?
Parento.info, I-N-F-O.
Ça se retient bien et facilement, tout ça. Danick Paranto, auteur essayiste, professeur de philosophie et de sciences politiques au Collège militaire royal de Saint-Jean. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Ben merci, ça fait plaisir.
On est de retour à CIBL, reçoit Entêté d'avenir à CIBL. Bien évidemment, Guillaume Touzel-Bonde, toujours là avec vous et avec plaisir, et toujours avec moi et avec plaisir, j'ose l'espérer, Marcel Tessier ainsi que Maxime Laporte. Avant de passer aux activités de la SSJBM qui s'en viennent, on a parlé en début d'émission de celles qui ont déjà eu lieu et il y en a beaucoup qui s'en viennent également, mais comme ça, vite, vite, vous l'avez écouté, l'entrevue, en compagnie de Danick Paranto. Qu'en avez-vous pensé? Ça demeure une thèse,
évidemment. C'est sûr qu'effectivement, comme tout essai, ça suscite des discussions. D'ailleurs, je recommande vraiment à tout un chacun de lire ces deux formidables livres-là. Et le dernier, je l'ai particulièrement apprécié. Cela dit, par exemple, on pourrait avoir une discussion sur plutôt sur le premier. Donc, cette prémisse voulant que les Québécois seraient de nature républicaine, c'est ce que propose Paranto. Mm-hmm. En fait, les Québécois sont-ils vraiment républicains de cœur ou alors monarchistes dans leur comportement politique? C'est une question qui n'est pas évidente. Ce qu'on peut dire d'abord, c'est que très rapidement après la Révolution américaine et la Révolution française, il y a un accueil particulièrement négatif des idées françaises de république ici, notamment évidemment chez le clergé. Et je vais vous lire un extrait d'un sermon de Mgr Plessis en 1798 en réaction à la victoire britannique contre la flotte républicaine française. Et c'est un texte qui est à placer à l'origine de divers courants ou attitudes chez nous vis-à-vis de la France et des idées françaises et vis-à-vis de l'Angleterre des idées monarchistes. Alors, ça va comme suit. Quel changement funeste n'a pas éprouvé cet infortuné royaume de France par l'avènement de la République? L'ennemi du salut, c'est-à-dire le diable, jaloux apparemment d'y voir le règne de Dieu, c'est-à-dire le pouvoir royal et de droit divin, évidemment, donc le règne de Dieu si solidement établi, est venu dans les ombres de la nuit, je veux dire, avec les artifices ténébreux d'une philosophie trompeuse, on parle de la philosophie des Lumières, couvrir d'une dangereuse ivraie de productions impies, de livres incendiaires, toute la surface de cette riche et fertile contrée. Fin de la citation, on parle de la France. Et un peu plus tard, donc 10 ans plus tard, un extrait d'un poème paru dans le journal Le Canadien le 12 décembre 1807 et intitulé « L'Anti-François ».
OK.
Alors, pourquoi diable êtes-vous François? Je sais bien que fuyant Paris, décrété par la République, vos pareils furent accueillis au sein de l'île britannique. Je sais bien que Sa Majesté eut pour eux tout plein de bonté. Enfin, elle est toi le maître. Chacun a ses raisons, mais moi, si j'eusse été à la place du roi, je les aurais envoyés paître sans autre forme de procès. Fin de cet extrait. Bon, alors il est évident que les Patriotes ont pour plusieurs prôné la République. Les frères Nelson, que ce soit implicitement ou explicitement. Les frères Nelson ont même rédigé en 1838 une déclaration d'indépendance du Bas-Canada et ce n'était certainement pas pour faire un royaume du Bas-Canada, bien au contraire. Mais après l'échec de l'insurrection, on va annexer le Bas-Canada au Canada, comme en parlait M. Tessé tantôt, donc le Québec à l'Ontario, les francophones vont être minorisés. Et c'est le clergé qui, de connivence avec la couronne britannique, va monter en puissance. Et à ce moment-là, et pendant 100 ans, jusqu'à la Révolution tranquille, disons que l'idée de République ne va pas faire partie de nos discussions, malgré quelques soubresauts. On va adopter le Code civil du Bas-Canada qui est hérité de Napoléon, mais pourtant sans donner à cet événement un contenu particulièrement politique. Et pendant toute cette période, on va plutôt s'affairer à former, en fait, des élites canadiennes-françaises. La SSJB va y participer énormément, donnant accès au peuple, à l'éducation, à l'économie, mais tout cela a pour résultat qu'on a créé une sorte de petite monarchie à Québec au sens large. Comme pour compétitionner la monarchie ou l'élite canadienne-anglaise. Et ça va culminer, bien sûr, avec l'arrivée de l'État québécois qui va s'incarner dans les institutions monarchiques britanniques existantes. Et malgré tous les mouvements sociaux qui éclosent à la Révolution tranquille, le Québec ne va pas rompre avec la tradition monarchique. Il ne va pas donner au peuple un pouvoir constituant, ce qui est le républicanisme. Donc, il y a donc lieu de se questionner à savoir si les Québécois sont vraiment de nature républicaine, en tout cas au sens occidental, au sens, disons, français ou américain ou irlandais du terme.
Okay.
Mais par contre, je suis allé voir le documentaire L'Empreinte récemment avec Roy Dupuis, je le conseillerais à tout le monde. Et aussi, j'ai eu le bonheur de rencontrer les réalisateurs Yvan Dubuc et Carole Poliquin. Et j'ai trouvé j'ai trouvé le propos de ce film-là convaincant. Quant à la culture des Premières Nations, y compris leur culture ou leur pratique politique, qui aurait significativement imprégné l'esprit politique des Québécois, et cela depuis les débuts de la Nouvelle-France. Cet esprit de liberté, ces colons qui vont, plutôt que de s'empêtrer dans les devoirs, de devoir gérer une seigneurie, rendre des comptes au seigneur, vont plutôt courir les bois, courir aussi les robes des Amérindiennes.
C'est sûr.
et je crois qu'on retrouvera bien sûr dans cette imprégnation durable des signes de ce qu'on peut a posteriori appeler un républicanisme. Mais même si certains du républicanisme peuvent correspondre au mode de vie autochtone en communauté, nomade, semi-nomade, le terme républicanisme, quant à moi, me paraît un peu inadéquat parce qu'à l'origine, c'est une culture politique que nous avons et qui participe davantage de pratiques sociales qui n'ont rien d'occidental. Hein, et qui n'ont rien de principe constitutionnel, par exemple, républicain. Alors, on pourrait dire, par contre, si on voulait faire de la science politique, que les Québécois sont probablement coopératistes, ont été influencés par les Premières Nations, ils sont démocrates, mais tant qu'ils n'agiront pas politiquement pour adopter collectivement leur propre constitution démocratique, il me semble qu'on peut difficilement parler d'un républicanisme québécois incarné. En tout cas, c'est pas un courant dominant. Et je dis ça malgré le fait que je suis profondément en faveur de l'idée de république. Et je souhaite la venue d'une république libre du Québec, vous le savez. Et bien sûr, la SSJB, en tout cas dans sa première mouture, fondée en 1834, est habité par cet esprit-là des patriotes.
Mais alors, d'ici là,
c'est le commentaire sur mon ami Danick Parenteau et j'encourage quand même tout le monde à lire
oui,
ses essais.
Tout à fait. D'ici là, Maxime, on en a parlé évidemment abondamment lors de l'émission.
Oui.
L'acte d'union, plutôt que de se le taper in English only sur Internet. Il y a un colloque à ce sujet très bientôt.
Certainement un colloque d'une journée complète. Mais par contre, je dois vous avouer que c'est guichet fermé.
Alors, sachant que ça existe.
Mais par contre, donc les extraits, en fait, les actes du colloque vont être publiés dans l'Action nationale, la revue L'Action nationale, donc à l'automne. L'événement a lieu le 5 juin prochain au 82 rue Sherbrooke-Ouest. Dans les autres événements à venir, en passant plus près de nous, le 1er juin à 19h à la Maison de Gilles Duvernay, donc 82 Ouest rue Sherbrooke, conférence d'une indépendantiste écossaise donc, qui est venue pour nous, qui a fait le voyage de l'Écosse jusqu'ici, Madame Kat Boyd, alors qui est une progressiste et une indépendantiste féministe écossaise. Bien sûr, il y a la fête nationale qui s'en vient à grands pas, on y travaille très fort. Ce jeudi, il y a le dévoilement des festivités qui auront lieu à Laval. Donc, Laval organise une méga fête régionale cette année qui correspond aussi au 50e anniversaire de la ville. Ah. Alors, une programmation époustouflante. Okay. On va avoir des nouvelles ce jeudi. Bon. Aussi, le 10 juin, ben, là, à ce moment-là, c'est le dévoilement des activités de la programmation pour Montréal.
Ici même.
Et je signale à tout le monde, bien sûr, que le grand spectacle se déplace du Parc Maisonneuve à la place des festivals. Innovation cette année.
C'est un changement majeur, quand même.
On a un beau quartier des spectacles. Pourquoi pas l'utiliser? Il faut dire aussi qu'on fait face à des coupes importantes. Mais malgré tout, on va donner un nouvel élan à la fête. Donc, le grand spectacle télévisé à Radio-Canada.
C'est un peu comme CIBL, on part de la Maisonneuve et on vient s'installer au quartier des spectacles.
Donc, grand spectacle à la place des festivals le 23 plutôt que le 24.
Oui.
La télédiffusion, par contre, reste le 24 au soir. Mais le fait de le faire le 23, je pense, plaît, et on a même commandé un sondage interne, plaît énormément aux gens de la région métropolitaine, puisqu'ils pourront veiller jusqu'à tard le 23, hein, parce que le lendemain, c'est un jour férié.
Mm-hmm.
Et le lendemain, justement, on met en valeur le défilé. Qui est l'élément distinctif de la fête nationale?
Qui, lui, demeure le 24.
Oui, demeure le 24. Une journée familiale, plein de fêtes locales, etc. Et ce défilé, enfin d'après-midi, qui sera télédiffusé pour la première fois depuis plusieurs années, donc encore une fois à Radio-Canada, avant le téléjournal de 18h. Donc, on est très heureux. Donc, ce que je souhaite vraiment, c'est donner, mettre en valeur davantage ce défilé-là, qui, comme je le disais tantôt, est l'élément sans doute distinctif de la fête nationale, 172e anniversaire cette année. Et parce que vous savez, des shows, c'est bien, et Dieu sait que le spectacle, la fête nationale est extraordinaire, mais des spectacles, il y en a tout le long de l'année. Alors, c'est sûr qu'on va inviter les gens à participer en grand nombre à ce défilé. Et donc, la programmation sera annoncée le 10 juin. Et puis, ben voilà, on réserve de belles et grandes surprises cette année aux Québécois.
On se tient au courant. L'information sera diffusée tôt ou tard. On va en parler ici à CIBL. Et tiens donc, la dernière émission de la saison d'Entêté d'avenir, ça tombe le 24 juin. Donc, j'ai une vague impression de savoir de quoi il va être question.
Ben oui, certainement. On va parler de notre fête nationale, la fête du peuple, hein, dont la fondation en 1834 par ce premier banquet tenu dans les jardins de l'avocat d'origine écossaise McDonald. Donc, le premier banquet qui est un moment fondateur pour le Québec. Je pense que M. Tessier va être d'accord avec moi. À ce moment-là, Duvernay va porter un toast au peuple, source primitive de toute autorité légitime, en des temps de tyrannie, et c'est pas rien, c'est peut-être même un événement révolutionnaire, en tout cas qui est fondateur pour notre identité québécoise, et donc, effectivement, à la prochaine émission, on va en parler.
Tant mieux. Maxime Laporte, merci beaucoup encore une fois pour cette édition d'Entêté d'avenir. Merci également à Danick Parenteau, Marcel Tessier, merci d'avoir été avec nous à la mise en onde de cette émission. Carlo Bellomo, merci à Claude Boisvert de la SSJBM également pour la co-réalisation, la participation à cette émission. C'est 100% Franco qui suit et restez avec nous toute la journée à CIBL. L'avant-dernière de la saison de Catherine et Laurent à CIBL et ma TV avec Gilles Payet. Également la grande finale de la saison de Droit de cité ce soir.
Tente d'être habillé chic pour moins de 100$.
Comme RBO, soyez complice du 35e anniversaire de CIBL.
Je crois bien vite.
C'est moi et Daniel.
Le mardi 9 juin, âge à RBO.
Allez à mon petit avec vous.
Avec Richard Zetirois, Anne-Marie Kérouac reçoit les 4 membres de RBO. Écoutez des extraits de leur premier succès à CIBL.
Allô Benoît.
Improvisation, primeur, entrevue déjantée, soyez témoins de ce moment historique.
Vous aimez le rock? Des bons vieux classiques, des nouveautés et du gros rock sale qui décoiffe? Tous les mercredis dès 20h, écoutez Etc. Rock, Rockorama et le bourreau métallique à CIBL 101.5 Montréal.
Soyez au rendez-vous cette semaine pour le dernier épisode de la série télé Laboratoire MaTV. La mentor Martine Desjardins et les juges du Laboratoire MaTV discuteront des 4 courts-métrages réalisés par 4 jeunes de la relève sur le thème de l'éducation. Animé par Tammy Emma Pépin, en direct de l'usine C, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Laboratoire MaTV, ce samedi 21h à MaTV, chaîne 9 et 609 en HD. L'espace citoyen propulsé par Vidéotron.
Qu'est-ce que tu fais?
La place!
C'est quoi ça?
Un vieux billet de vin. Puis fouille pas dans mes poubelles.
Tu jettes de l'argent à poubelle?
Je le portais plus, ce vin-là.
Mais des 20, des 10, des 50$?
Chaque vêtement, chaque meuble, chaque objet qui dort dans votre maison se transforme en argent au magasin du Chaînon.
Un 100$?
Ça me va pas bien, le brun.
Donner au chaînon, c'est donner aux femmes. Pour donner, rendez-vous au 4375 boulevard Saint-Laurent, Montréal.
Compte en commun une couturière et votre notaire, ils sont simplement humains. Les mercredis, nos panélistes aborderont l'humanité à travers des témoignages intimes. Nos psychologues et sociologues, ainsi que d'autres professionnels, nous aideront à mieux nous comprendre. Simplement humain, mercredi, 19h, sur les ondes de CIBL 101.5 Montréal. Simplement humain, l'émission où l'on décortique l'humain pour mieux s'en rapprocher.
Avec ses studios en plein cœur du quartier des spectacles et son antenne au sommet de la tour du Parc olympique, CIBL 101.5 rayonne pleinement sur la communauté montréalaise.